Léa Salamé, 7h50, votre invité ce matin est président de l'Assemblée nationale.
Bonjour François de Rugy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous connaissez Sébastien Mabil ?
Non.
Il est avocat de métier et il était jusqu'à ce week-end adhérent d'En Marche. Voilà ce qu'il a tweeté hier. L'Aquarius est l'épisode de trop. J'ai demandé à Christophe Castaner de ne plus me compter parmi les adhérents d'En Marche. Comme beaucoup, je quitte cette aventure avec la honte de voir les valeurs de la France sombrer avec les migrants au fond de la Méditerranée. Vous lui répondez quoi à ce jeune homme qui a donc quitté le parti ?
Alors, d'abord, c'est normal que je ne connaisse pas tout le monde. Il y a 400 000 adhérents du mouvement La République En Marche. Et je peux comprendre que tel ou tel adhérent réagisse par rapport à tel ou tel aspect de l'actualité.
Il y en a de plus en plus. C'est ça le sens de ma question.
Non, mais
vous voyez,
cette
actualité-là,
elle était particulièrement touchante à tout point de vue. Et elle a suscité de l'émotion. Et il faut toujours le comprendre et l'entendre. Après, sur la politique d'immigration, parce que c'est bien ça le sujet, la politique d'immigration en Méditerranée, vous voyez bien qu'il y a eu un jeu extrêmement malsain des nouveaux gouvernants italiens. Des nouveaux et du nouveau ministre de l'Intérieur italien, qui est d'extrême droite, il faut le dire.
Donc c'est la faute de l'Italie, hein ? Non, vous continuez à le dire.
Il y a eu un article encore qui est paru hier qui a bien démontré que, y compris au départ, les autorités italiennes ont encouragé ces bateaux de secours qui sont avec des organisations non gouvernementales, mais aussi accompagnés par des bateaux de la marine italienne à aller chercher ces migrants pour ensuite leur refuser l'accueil dans les ports italiens qui sont les plus proches de la côte libyenne. Et donc ça montre que, évidemment, il y a eu la volonté du nouveau gouvernement italien de frapper un grand coup médiatique. C'est réussi de ce point de vue-là pour montrer qu'il y avait un grand changement dans la politique d'immigration italienne.
La position de la France vous a mis totalement à l'aise depuis 4 jours ?
Là, on aurait pu se poser la question, en effet, de dire, est-ce que ce bateau qui était loin des côtes françaises, mais est-ce qu'on doit l'accueillir dans un port français, à Nice, à Toulon, à Marseille, plutôt que en Espagne ? Moi, je comprends la position du gouvernement. Vous savez, chacun est à ses responsabilités sur une chose simple, parce qu'il y avait quand même un message simple aussi à envoyer aux autorités italiennes. Que les nouvelles autorités italiennes ne se disent pas « Bon, bah maintenant, nous fermons la porte et nous réaiguillons tout le monde vers la France. » Ou tout le monde vers l'Espagne, d'ailleurs, demain.
Pardon,
je n'entends pas, d'ailleurs, le gouvernement espagnol
c'était pas le sujet de l'Aquarius.
Accepter cela non plus.
Vous dites que
si,
vous
c'est
comprenez.
Ça le sujet. Si, moi, je vous le dis que c'est ça le sujet.
D'accord.
Parce que le sujet de l'Aquarius, vous le savez très bien, il est double. Un, est-ce que les migrants, on les laisse s'embarquer sur des embarcations qui sont extrêmement dangereuses, avec des passeurs qui leur font payer très cher pour faire risquer leur vie ? Moi, je dis la priorité, et ça, je le dis depuis toujours, c'est d'empêcher le fait que ces gens prennent de tels risques pour embarquer et donc que leur cas soit traité en Libye et pas en pleine mer.
François
que ce
Dorigi.
Soit sur la terre ferme de Libye. Et c'est bien avec cette coopération qu'on arrivera à réguler la situation pour à la fois protéger ces personnes et aussi réguler l'entrée des migrants en France.
François Dorigi, j'ai beaucoup de questions à vous poser ce matin. La une du Figaro, titre sur la fin de l'innocence pour Emmanuel Macron. Après un an, le président face aux divisions de sa majorité. Ça fait un an aujourd'hui que le groupe La République En Marche est arrivé à l'Assemblée nationale. À part la fidélité à Emmanuel Macron, il tient à quoi ce groupe ? C'est quoi son identité ?
Le groupe En Marche, pour moi, est rassemblé en effet sur le soutien au président de la République. La personnalité du président de la République est évidemment structurante puisque le mouvement En Marche a été créé par le président de la République lorsqu'il était encore
D'accord, mais un an ministre. Après, une fois qu'on a dit ça,
ensuite,
c'est quoi ?
Il y a des valeurs, les valeurs européennes, les valeurs de transformation, la volonté de transformer en profondeur le pays, notamment l'économie, on l'a fait, notamment l'éducation, on en parle moins. Mais il y a une œuvre très importante qui est faite sur l'éducation, sur la formation professionnelle. On avait le débat la semaine dernière à l'Assemblée nationale. C'est des promesses qui avaient été faites pendant la campagne. Elles sont mises en œuvre. Et cette volonté de transformation, elle rassemble tout le monde. Moi, je n'ai jamais entendu aucun député de la majorité dire « ça va trop vite, il vaudrait mieux reporter telle réforme ». Oh, la réforme de la SNCF.
Ils disent qu'ils sont crevés.
Non, mais ça, c'est sur les rythmes de travail de l'Assemblée. Mais sur le fond, personne n'a dit « oh, la réforme de la SNCF, oh là là, il y a des grèves, il vaudrait mieux attendre, il vaudrait mieux repousser plus tard, il vaudrait mieux repousser le projet. Vous n'entendrez jamais personne dire cela. Ouais. Après, il y a des sensibilités, c'est normal, sur la façon de faire ou sur telle ou telle priorité ou sur tel ou tel point de la politique,
et
notamment
vous...
l'immigration, on le sait, on l'a vu
et
il y a quelques semaines également.
Est-ce que vous avez un regret ? Ça fait un an que vous êtes président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez un regret ?
Oh, moi, je n'ai pas de regret parce que, au contraire, je trouve que ce que nous avons voulu engager, nous le faisons. Si je n'ai qu'un seul regret, c'est que, voyez-vous, ce sur quoi j'ai beaucoup insisté, c'est-à-dire la transformation de l'Assemblée nationale et de nos institutions pour résoudre la crise démocratique, pour éviter de s'enliser au Parlement dans des débats qui n'en finissent pas. Ça, on ne l'est pas encore fait, mais on tient le bon bout, comme on dit, puisque nous allons le faire dans quelques semaines.
Est-ce qu'il faut limiter le nombre d'amendements ?
Je ne crois pas que ce soit comme cela qu'on aura des débats plus intéressants. Je crois que c'est en maîtrisant justement les débats. C'est-à-dire on dise, voilà, il y a tel sujet, ça, il y a plusieurs groupes qui veulent débattre là-dessus, ils ne sont pas d'accord, il faut que ce débat puisse avoir lieu et qu'on ne se dise pas, tiens, ça aurait peut-être lieu le lundi, ou peut-être le mardi, ou peut-être le mercredi. Qu'on se mette d'accord sur des débats un peu organisés. Mais dans le même temps, qu'on se mette aussi d'accord sur le fait que quand un texte peut être examiné en une semaine, il est examiné en une semaine, pas en deux ou en trois. Alors, parce que certains me disent, ah mais s'il y a 3000 amendements, il faut 3 semaines, ou il faut 4 semaines. Donc demain on déposera 4000 amendements, puis ce sera 4 semaines, puis 5000 amendements, puis ce sera 5 semaines. Ça on ne peut pas s'en tirer comme ça.
Dites-moi juste une chose, la loi fake news, elle sera votée quand ? Parce que vous avez commencé l'examen il y a 10 jours, et puis elle n'est plus à l'ordre du jour, donc est-ce qu'elle a disparu ?
Sur cette loi, vous faites bien d'en parler, il y a eu des manœuvres d'obstruction de plusieurs sensibilités d'opposition d'ailleurs. Les Républicains et
tous.
La France Insoumise,
tout
et aussi le Front National. Non, il y a d'autres sensibilités qui étaient tout à fait conscientes du problème, parce qu'il y a un vrai problème quand même d'avoir le fait que les fausses nouvelles les informations complètement fabriquées pour nuire puissent circuler sur Internet sans limite, alors que vous, sur votre antenne, si vous dites une énormité complètement fausse, vous pouvez être poursuivi. Le journal Le Figaro dont vous parlez il y a quelques instants, s'il dit une énormité complètement fausse, il peut être poursuivi.
Elle
et sur Internet,
quand,
c'est pas le même régime.
Il
faut absolument qu'on puisse le faire. Il y a eu là un problème de maîtrise de calendrier, donc ce sera sans doute examiné dans la dernière semaine de juin ou la première semaine de juillet.
Une réforme de la Constitution arrive donc le mois prochain. L'environnement devrait faire son entrée dans le texte suprême. La question, c'est à quelle place ? Alors, il y a deux
positions.
Vous savez
qu'il y a déjà la charte de l'environnement. C'est une très bonne chose, d'ailleurs, qui a été intégrée à la Constitution en 2002.
L'environnement, c'est subtil mais important. Édouard Philippe souhaite mettre l'environnement à l'article 34, celui réservé au domaine de la loi. Nicolas Hulot pense que ce serait plus fort symboliquement, plus fort juridiquement de le mettre à l'article 1er de la Constitution, l'article des principes fondateur. Et vous êtes quoi ?
Je pense comme Nicolas Hulot, et je plaide déjà depuis un certain temps pour qu'en effet, dans l'article 1er de la Constitution, qui affirme un certain nombre de principes, qui dit notamment la République est laïque, la République est démocratique, sociale, etc., et bien qu'on puisse dire dans cet article 1er qu'il y a en effet la question de l'écologie, mais en étant précis sur le dérèglement climatique, la lutte contre le dérèglement climatique et la protection de la biodiversité, ce soit des principes constitutionnels affirmés dès l'article 1er, comme d'autres principes. Également l'égalité femmes-hommes, puisqu'aujourd'hui c'est juste mis la loi favorise la parité. Je souhaite que ces grands principes de vie en société, d'aujourd'hui, on n'y avait pas pensé il y a 60 ans. Il y a 60 ans, c'était pas dans les préoccupations de ceux qui ont rédigé la Constitution, eh bien qu'on actualise en quelque sorte la Constitution.
Le bac philo, c'est ce matin un conseil pour les jeunes qui fassent le bac ?
Bien déjà, j'espère qu'ils trouveront un moyen de transport, et je salue d'ailleurs l'action de la CFDT qui, elle, a dit qu'elle allait favoriser les transports en train pour aller au bac, et c'est tant mieux. Et puis, par ailleurs, s'il y a un conseil, c'est surtout de prendre le temps, parfois de prendre un peu de recul avant de faire des déclarations, et donc avant d'écrire sa copie, de prendre le temps de faire un plan détaillé, et ensuite, de le rédiger tranquillement en réfléchissant à ce qu'on dit.
Merci François de Rugy, belle journée à vous.
Merci Léa, à tout à l'heure.